archives de l'écologie. François Bernard.
Bonjour, merci de nous accueillir à l'écoute des archives de l'écologie. La préservation du vivant est une des préoccupations des écologistes. On s'intéresse aujourd'hui à une espèce animale qui connaît une survie difficile depuis un siècle, le tigre. On en dénombrait environ 100 000 à l'état sauvage au début du XXe siècle. 100 ans plus tard, on en comptait à peine quelques milliers. L'an 2000, c'est de cette année-là que date notre archive d'aujourd'hui. Produite par Radio France Internationale, dans le cadre de l'émission Fréquence Terre, le reportage que nous allons entendre relaie donc, il y a 25 ans, le cri d'alerte lancé par les ONG devant la diminution inquiétante du grand félin. On écoute le bilan qu'il dresse et on se retrouve dans 20 minutes pour voir comment la situation a évolué.
Fréquence Terre.
Bonjour à tous. Ben Kramer avec vous pour ce Fréquence Terre consacré au tigre. Les experts sont d'accord, le nombre de tigres, de vrais tigres à l'état sauvage, est en train de diminuer de façon dramatique. Que ce soit à Sumatra, en Sibérie ou au Rajasthan. En Inde justement, 1995, 73 tigres ont été tués par des braconniers. À Dhaka, capitale du Bangladesh, lors de la conférence du Global Tiger Forum, en janvier, on a dénombré 350 tigres royaux du Bengale, soit la moitié de ceux recensés il y a 5 ans. Contrairement aux rumeurs rassurantes, il n'y en aurait plus au Vietnam. Une délégation représentant la Convention sur le commerce international des espèces menacées d'extinction, la CITES, vient de se rendre en Inde et au Japon pour freiner le déclin de la population des tigres. Rencontre insolite avec Thierry Leportier, dompteur de son métier, le seul Français à vivre en permanence avec plus d'une vingtaine de tigres.
C'est qu'une question d'espace. Quand en 1952 ou 3, les chasseurs tuaient environ 2000 tigres par an en Inde, on peut toujours verser une larme sur les 2000 tigres qui tuaient, mais ça voulait dire qu'ils entamaient à peine le capital tigre, ils n'entamaient même pas. Pourquoi ? Il y avait 300 millions d'hindous. Maintenant, il y a 1 milliard d'hindous et 2 ou 3 000 tigres, ça doit être au maximum ce qui reste. Donc, le vrai problème, ce n'est pas le bien-être du tigre. Le vrai problème, c'est le bien-être de l'homme qui est de plus en plus nombreux, qui grignote de plus en plus les territoires et ces animaux ont besoin de territoires relativement vastes.
Oui, un mâle a besoin de 100 à 120 km carrés. C'est dur de lui trouver des espaces aujourd'hui. Comme l'explique un ingénieur de l'aéronautique qui a mal tourné, Bertrand Desclercq. Il est aujourd'hui directeur d'une fondation créée à Paris il y a plus de 20 ans, à l'initiative du frère du chat d'Iran, la Fondation internationale pour la sauvegarde de la faune.
À l'époque, en 80, une campagne a été lancée par le WWF, qui a personnellement versé 1 million de dollars. Le gouvernement indien a versé des fonds considérables aussi pour créer des réserves pour les tigres, qui étaient des réserves forestières, parce qu'on s'est aperçu que, bien sûr, si on ne voulait pas que les tigres mangent le bétail des paysans, ou même les paysans eux-mêmes, puisqu'il y a tout de même chaque année un certain nombre d'Indiens qui se font dévorer par les tigres, il fallait créer pour eux des réserves de forêt dans lesquelles il y aurait des animaux qui soient mangés par les tigres, des animaux sauvages, en particulier des cervidés, des sangliers, dont les tigres ont besoin pour se nourrir. Donc on a créé ces réserves de forêt, on a empêché bien sûr les paysans d'aller couper du bois dans ces forêts, et la population de tigres indiennes a remonté jusqu'à peu près un niveau de 5000 animaux il y a maintenant une dizaine d'années. Et depuis 10 ans, les organismes donateurs se sont essoufflés. Le gouvernement indien est soumis à des pressions politiques, bien sûr, locales de plus en plus fortes, ce qui fait que les villageois vont dans ces réserves de forêt pour couper du bois, pour ramasser de la paille, pour faire la toiture de leur paillotte, etc. Et comme les tigres sortent de plus en plus de ces réserves pour se nourrir, il y a de plus en plus de conflits avec les humains, et les paysans les empoisonnent en farcissant le ventre de la vache tuée par le tigre avec du DDT ou un autre insecticide, ce qui fait que le tigre, quand il revient pour son deuxième repas, en meurt.
plein feu sur l'Inde. C'est là que se trouve la moitié des survivants. En 1972, le gouvernement indien lançait déjà, avec l'appui du WWF, le projet Tigre, qui prévoyait la création de 18 réserves naturelles. Nous avons décidé d'en savoir plus avec Belinda Wright. Obsédée par les tigres, comme elle le dit elle-même, elle les protège en travaillant à plein temps depuis 1993 comme présidente de la Wildlife Protection Society of India à Delhi. Belinda Wright sort ses griffes.
Selon la loi, celui qui tue un tigre est passible de 7 ans de prison et d'une amende qui s'élève à 25 000 roupies. Mais le problème, c'est que peu de personnes sont condamnées. Nous avons des centaines et des centaines de cas en instance. Et à notre connaissance, dans toute l'histoire de l'Inde, il n'y a eu que 3 condamnations, dont 2 grâce à nos efforts.
L'ONG de Belinda Wright a arrêté 240 contrebandiers et trafiquants. Mais la justice indienne a son propre rythme et les affaires sont en cours. Comme le note avec diplomatie le néerlandais Willem Wijnstekers, secrétaire général de la CITES.
Ce qu'on a vu sur place était il y a certainement une manque d'application de la législation indienne. On a discuté longuement avec le ministre de la Justice indien qui nous a assuré de faire quelque chose sur base de recommandations qu'on va faire après notre visite. Dans les parcs nationaux, dans les réserves, le personnel est là, les voitures sont là, tout est là. Mais les activités ne sont pas vraiment conformes à ce qu'on attend. Certainement comparé aux autres parcs en Afrique, par exemple, pour d'autres espèces, mais où on a beaucoup moins de moyens, mais beaucoup plus de succès. On a visité un parc où on n'a pas vu de tigre, ce qui ne veut pas dire grand-chose, parce que il y en a 5 ou 6 dans ce parc, Khajuraho, Pana National Park. Et, bon, il y a des gens qui sont très motivés, il y a beaucoup trop qui ne le sont pas.
Selon le WWF, le Fonds mondial pour la nature, qui s'est fait connaître avec le symbole du panda, les efforts existent. Au micro, le directeur du programme de protection de WWF à Genève, Christopher Hares, qui a mené sa bosse en Asie du Sud-Est.
La plupart des gouvernements de la région sont motivés pour conserver et protéger les tigres. En ce qui concerne l'Inde, c'est très clair. C'est leur animal national et une partie importante de leur héritage. Ce qu'ils nous demandent, c'est de l'assistance, que ce soit de l'assistance financière ou parfois de l'assistance technique. Les aider, par exemple, avec des cours de formation pour les gardiens des réserves ou la gestion de l'habitat, ce genre de choses. Donc il est du rôle du WWF, le Fonds mondial pour la nature, d'être capable d'attirer l'attention du public et de s'asseoir avec les dirigeants de ces pays pour élaborer des plans de travail.
Le WWF fait partie de ces grandes ONG, comme l'UICN, Union internationale pour la conservation de la nature, qui ont utilisé le tigre, cet animal emblématique, comme leur fonds de commerce, disent les mauvaises langues. Leur budget de plusieurs centaines de millions de dollars leur permet d'investir dans ces campagnes. Christopher Hares.
The Tiger Forum itself.
Dans le Global Tiger Forum, les pays membres apportent chacun une contribution. Mais cette cotisation est plutôt faible. La plupart des fonds pour la conservation du tigre proviennent des organisations non gouvernementales comme WWF. Et chaque année, nous mettons dans la cagnotte approximativement 5 millions de dollars. Sinon, cela provient des pays donateurs ou les grandes agences. L'une des raisons d'être du Global Tiger Forum, c'est justement de mettre sur pied des programmes d'action valables qui vont attirer les donateurs des pays riches du monde.
Si l'on se branche sur Internet, on s'aperçoit qu'il y a des dizaines et des dizaines de fondations. Mais l'on peut se poser des questions sur l'efficacité de ces campagnes. À Delhi, Belinda Wright.
Les campagnes sont très louables, mais tant que le gouvernement indien ne prend pas ça au sérieux, nous pouvons nous mobiliser jusqu'à notre dernier souffle. Il y a 26 réserves de tigres. Beaucoup d'entre elles ne disposent même pas d'unités anti-braconnage. Beaucoup de gardes forestiers n'ont même pas des uniformes appropriés pour effectuer leurs patrouilles. Je peux vous donner au moins 5 ou 6 exemples de réserves où les salaires n'ont pas été payés depuis des mois. Il n'y a pas non plus de gasoline pour les véhicules. C'est nous qui fournissons le pétrole pour les véhicules d'un certain nombre de parcs, alors que ceci est du ressort du gouvernement. De la même façon, il n'y a pas assez de dispositifs aux frontières, là où le trafic s'effectue et il y a peu de contrôle au sein des villes. Enfin, ce n'est pas aux militants des organisations non gouvernementales de faire le travail de protection en se baladant avec des fusils. C'est le travail du gouvernement.
Bertrand Desclercq de la Fondation pour la conservation de la faune.
On est en train de s'occuper d'eux de la manière qui, en fin de compte, n'a pas réussi il y a un peu plus de 10 ans. On repart sur le même chemin, disant il faut augmenter le nombre de gardes-chasse, il faut empêcher le braconnage à tout prix, il faut faire ceci, et au bout de quelques années, il n'y aura plus d'argent pour faire ça. Aujourd'hui, on ne peut pas envisager des zones dont l'homme est exclu, si vous voulez. Il faut donc avoir la collaboration des gens qui habitent autour de ces zones protégées et réussir, et ce n'est pas facile, mais il faut réussir à ce que ces populations environnantes profitent de la conservation de la nature. Au lieu d'empoisonner les tigres, ou de les braconner, ou de faciliter le passage des braconniers pour qu'ils les débarrassent des tigres, il faut vous assurer que les populations environnantes sont impliquées dans les bénéfices de cette conservation et de cette protection. C'est-à-dire qu'on leur permettra de nouveau d'aller chasser, pêcher, cueillir des fruits, sous contrôle bien sûr. En fait, notre propre expérience démontre que la protection, l'établissement de réserves ou de protection totale animale est une chose qui est insoutenable à long terme. C'est-à-dire que ça coûte très cher de sauvegarder, comme on sauvegarderait ou comme on garderait un coffre-fort ou un musée, un endroit où on interdit aux populations humaines de pénétrer.
La vraie menace est le braconnage. Il faut aussi se tourner vers le Japon et la Chine, qui utilisent les produits de tigre dans leur pharmacie. 24 compagnies chinoises ont été recensées qui exportent clandestinement certains remèdes à base de tigre. Willem Weinstakers, secrétaire général de la Convention de Washington ou CITES.
Le Japon a en fait décidé au mois de décembre d'interdire tout commerce de produits de tigre qui restait encore possible. À partir du 1er avril de cette année, vous savez peut-être que le Japon, la dernière fois qu'on était là, on a trouvé des produits de tigre dans des pharmacies chinoises, du vin de tigre et d'autres médicaments qui disent contenir des produits de tigre. Et ce qu'on a vu surtout, c'était des pénis de tigre qui étaient ouvertement à vendre dans le quartier Ginza à Tokyo, et les pharmacies sont là aussi. On a fait une visite de ce quartier dans les mêmes pharmacies où on trouvait encore quelques produits il y a quelques mois, il n'y a plus rien. Et bon, ces mesures prises par le gouvernement japonais sont pleinement satisfaisantes.
C'est peut-être satisfaisant aux yeux du secrétaire général de la CITES, mais enfin, les Chinois ne sont pas prêts à remettre en question l'apport du tigre, ne serait-ce que parce que cela fait partie de leur culture. Le tigre est censé tout guérir, du rhumatisme à la panne amoureuse. Confirmation avec Gochang Li, un étudiant chinois à Paris qui rédige actuellement une thèse sur la nature et la civilisation dans la Chine ancienne.
Tous les éléments de tigre sont des trésors. Et donc, dans l'époque ancienne, on fabrique les médicaments. C'était assez populaire en Chine. Pour fabriquer le vin avec l'os de tigre, c'était très très populaire en Chine. Comme avant dans l'histoire, il y avait plein de tigres dans la montagne, etc. Et donc, cette liqueur, cette boisson est très populaire. Mais par contre, c'est maintenant en Chine, c'est déjà interdit. Et aussi, on croit que ce alcool avec l'os de tigre, ça renforce la sexualité des hommes, la force des hommes. Et aussi, c'est très efficace pour la blessure, surtout le problème des os. Selon les mythes d'une minorité qui s'appelle Yi, maintenant qui habite actuellement dans la province de Yunnan, c'est le tigre qui donne la naissance de l'homme et aussi de la nature.
Selon une dépêche du WWF, le Fonds mondial pour la nature, les responsables chinois s'accorderaient enfin pour protéger le tigre. Et M. Li a confirmé qu'il y avait de plus en plus de spots publicitaires à la télé pour mettre en garde les tueurs. Mais il n'y a pas qu'en Chine où l'on imagine diverses utilisations du tigre. C'est vrai aussi chez nous, en Occident. Dès 1965, SO conseille aux automobilistes de mettre un tigre dans leur moteur. Thierry Le Portier.
Pour SO France, en 7-8 ans, j'ai fait 6 ou 7 spots pour eux, avec, toujours avec le même tigre d'ailleurs, qui avait beaucoup de succès chez SO. Et donc c'est des spots qui duraient, c'était des 30 secondes pour la télévision. En général, ça se tournait, selon la difficulté du spot, entre une journée de tournage pour les plus simples jusqu'à une semaine de tournage pour les plus compliqués, pour 30 secondes. Bah ça, c'est un des exemples de ce que j'ai fait avec les tigres. Sinon, j'ai aussi fait avec ces tigres des spectacles live, comme on dit, que ce soit du cirque, du musical, etc.
La compagnie Exxon a investi 5 millions de dollars sur 5 ans pour alimenter dès 1995 un fonds pour le sauvetage du tigre. Quel que soit le bonheur ou le malheur des tigres derrière les barreaux, il y a actuellement plus de tigres en captivité que de tigres à l'état sauvage. Des reconversions sont-elles possibles? Bertrand Desclerc.
Quand vous avez un tigre qui a été capturé par exemple tout jeune et gardé en captivité, beaucoup de gens pensent qu'on peut le réintroduire à l'état sauvage dans son milieu naturel, c'est-à-dire qu'on pourrait tout simplement reprendre ces animaux dans les jardins zoologiques et les lâcher dans la forêt. Et il se trouve que ça a été essayé et c'est chaque fois un échec parce que les tigres, d'ailleurs c'est la même chose arrive pour les lions, apprennent à chasser grâce à leur mère. C'est leur mère qui leur apprend à chasser pour se nourrir. Dès que les jeunes tigres commencent à ne plus être allaités, à l'âge de 6 ou 7 mois, la mère commence à les habituer à manger de la viande, et c'est elle qui tue les animaux pour les nourrir. Et il y a encore une période de presque une année pendant laquelle la mère apprend à ses enfants à tuer eux-mêmes. Alors ça, vous ne pouvez pas le faire avec un animal qui a été élevé en captivité, parce que personne ne va être là pour lui apprendre.
Alors, faut-il promouvoir l'élevage comme le font les Chinois? Conseiller la chasse de quelques fauves par les touristes fortunés pour aider les habitants autour des réserves naturelles? Le débat est ouvert. Thierry Le Portier.
Si on utilise le tigre, il restera des tigres. S'il n'y a aucune utilité, quelle qu'elle soit, si le tigre n'a aucune utilité, il va disparaître. C'est-à-dire, soit il aura une utilité touristique, c'est-à-dire qu'on pourra en voir dans des parcs nationaux immenses, etc. Ça générera quelque chose et à ce moment-là, on protégera des grands espaces où il peut vivre. Soit, s'il n'a pas cette utilité, moi j'ai vu ça en Afrique, mais si la réserve génère de l'argent, des taxes qui sont reversées au coin, alors à ce moment-là, d'un seul coup, ça devient un bien commun et ça fonctionne comme ça fonctionne au Zimbabwe et aussi en Afrique du Sud.
Les réserves ne semblent pas empêcher les éléphants d'être à nouveau menacés par le braconnage, ni les rhinocéros de disparaître en Afrique. Et le tigre? La parole peu optimiste de Belinda Wright, cette passionnaria de la défense des tigres à Delhi.
Au cours de ces 3 dernières semaines, 20 tigres ont été tués. Ça ne figure même pas dans l'ordre du jour. Ce qui se passe n'est même pas considéré comme un enjeu par le gouvernement indien. Et je pense qu'un monde sans tigre serait un espace vraiment vide. Je pense que ce serait une tragédie pour le monde entier si l'on perdait les tigres sauvages. En tout cas, ce ne serait pas un monde où moi je voudrais vivre. Et si le monde se sent concerné, alors nous devons faire en sorte que le monde se mobilise et prenne la parole pour contraindre le gouvernement indien à prendre ses affaires au sérieux.
Et maintenant, le portrait de Thierry Leportier, l'un des principaux dresseurs, qui donne ici son point de vue sur les bêtes sauvages qu'il côtoie tous les jours.
Il y a une certaine partie de gens qui pensent que les animaux devraient vivre où ils vivent naturellement, ne pas être exploités, parce que pour eux, c'est de l'exploitation, etc. Alors, c'est un vaste discours, parce que l'animal, il est utilisé, parce qu'on peut dire utilisé ou exploité, depuis que le monde est monde. Moi, je pense que le plus vieux métier du monde, ce n'est pas la prostitution. Je crois que c'est le plus vieux métier du monde, c'est dresseur d'animaux, parce que le premier homme qui s'est occupé d'un animal autrement que pour le manger ou pour le tuer parce qu'il en avait peur, c'est-à-dire qui s'est intéressé de près et qui a commencé à apprivoiser, c'est le premier dresseur. Et ça date de très longtemps. Quand j'étais gamin, j'allais au zoo et j'allais voir surtout les félins, aussi bien au zoo, quelquefois au cirque, je n'avais pas beaucoup l'occasion d'y aller, mais c'était ça. Et au début, je n'allais absolument pas penser faire dresseur, ça ne m'avait pas traversé l'esprit. Puis un jour, j'ai vu un spectacle de dressage, c'est-à-dire pas un numéro terminé, mais quelque chose qui était en train de se monter. Et là, j'ai eu c'est une sorte de révélation, c'est-à-dire que 2 heures après, j'ai embêté le dresseur jusqu'à ce qu'il accepte que je puisse revenir pour donner un petit coup de main, à nettoyer, à repeindre les cages ou des choses comme ça. Ça a commencé comme ça.
Alors d'accord, ça c'est de l'ordre du feeling.
Oui, tout à fait.
Mais on peut imaginer qu'il y a quand même une certaine formation, il y a certains atouts, il y a certaines qualités particulières à avoir.
Oui, ça c'était ce qui avait déclenché l'envie. Mais après, il y a une espèce de tournure d'esprit à avoir qui fait que on réussira plus ou moins bien plus tard. Les qualités, ça peut s'acquérir. La technique, il y en a peu. C'est-à-dire qu'il vous faut un professeur. C'est plutôt du style maître à élève. On ne peut pas avoir 50 élèves, on peut en avoir un ou deux si on veut vraiment faire les choses comme il faut, parce que c'est des journées entières et même quelques années d'affilée. Mais il faut une tournure d'esprit pour arriver à un certain niveau. Il y a 2 choses. Il faut une bonne observation et surtout une bonne déduction. Alors, beaucoup de gens peuvent observer très très bien, et ensuite, très peu de gens déduisent juste ce qu'ils ont vu. C'est-à-dire, déduisent de l'attitude d'un animal, font la déduction juste. Et ça, on ne peut pas l'apprendre à quelqu'un d'autre. On peut lui donner l'occasion de l'apprendre, parce qu'on peut guider son expérience de manière à ce qu'il ne se fasse pas manger trop tôt et qu'il acquiert suffisamment d'expérience. Et après, il l'a ou il ne l'a pas. S'il ne l'a pas, on ne peut pas lui donner.
Alors, vous dites manger trop tôt, là, vous pensez éventuellement à la peur. Est-ce que vous avez eu l'occasion d'avoir peur face à un tigre?
Je ne pense pas éventuellement à la peur, je pense carrément à l'accident et à la peur, parce que si vous n'avez pas peur devant ces animaux-là, vous ne ferez jamais un dresseur. Parce que c'est une réaction, tout ce qu'il y a de plus naturel, d'avoir peur. Et si vous n'avez pas cette réaction, c'est que vous avez et un manque d'imagination, et vous n'avez absolument aucune idée de ce que vous avez en face de vous. Donc, un élève, enfin quelqu'un qui veut apprendre ça, mais qui ressent quand même un peu de peur, c'est parfait.
Vous en avez combien de tigres et d'où est-ce qu'ils viennent?
Alors actuellement, j'en ai 11, plus 2 bébés qui sont nés il y a 3 semaines, donc ça va faire 13. D'origine, j'ai, sur les 11, j'ai 9 Bengales et 2 Sibériens. Et je dis bien d'origine parce que maintenant, il y a bien une vingtaine d'années qu'on n'importe plus de tigres, même plus de félins du tout en Europe, puisqu'on en a plus qu'assez. Ils reproduisent très très bien en captivité. Au total, j'ai une 50aine de félins, hein, donc, dont d'autres félins, lions, tigres, panthères, etc.
C'était Fréquence Terre. Réalisation Marc Delouvrier. Mixage Nicolas Mougenot. Reportage et présentation Ben Kramer. C'était une émission du service magazine de Radio France Internationale.
Voilà, un reportage produit en mars de l'an 2000. Malgré les législations et les dispositions adoptées pour protéger les tigres, la population a diminué jusqu'en 2010. On dénombre 3200 individus à ce moment-là, conséquence de décennies de pression humaine, d'habitats détruits ou fragmentés et de braconnage intensif. À partir de 2010, certains États, l'Inde, la Russie, le Bhoutan, le Népal, la Chine, par exemple, mettent en place des politiques de protection, lutte anti-braconnage, restauration d'habitats, création de corridors. Résultat, en 2024, l'estimation mondiale s'élève à environ 6000 tigres sauvages recensés. Les tigres en captivité sont désormais plus nombreux que leurs congénères en liberté et il semble que l'espèce n'est désormais plus menacée d'extinction. Mais attention, disent certains experts, les meilleures méthodes de recensement peuvent laisser penser que la population augmente par rapport à des périodes où il était plus difficile de compter les tigres. En tout cas, les menaces sont toujours présentes. Le braconnage ou les conflits de territoire entre l'homme et la bête n'ont pas disparu, mais ce renouveau est un signe d'espoir, la preuve qu'une action concertée peut porter ses fruits. Pourtant, la situation reste précaire et les efforts de protection sont plus que jamais nécessaires. Voilà, c'est la fin de cette émission que vous retrouvez ainsi que toutes les précédentes sur notre site alternantefm.fr. Et quelle est donc l'archive musicale qui va conclure cette émission ? Eh bien, c'est un hommage à un autre grand fauve menacé lui aussi. Henri Salvador, le lion est mort ce soir. À la semaine prochaine.